Dieu fortifie par son esprit, fortifie en vous l'homme intérieur. Afin que vous soyez enracinés dans l'amour. Alors ça dit le sens de cette année. C'est une année qui sera centrée sur la question de la maturité chrétienne. Et ça tombe bien en même temps que cette école commence au moment où se vit le synode sur la nouvelle évangélisation. Parce qu'il est évident qu'il n'y aura pas de nouvelle évangélisation sans nouveau évangélisateur. Une nouvelle évangélisation, comme disait Jean-Paul II, nouvelle quant à sa ferveur, ses méthodes et son expression, tout ça est un appel d'abord à renouveler les missionnaires eux-mêmes, à renouveler les témoins pour qu'ils soient crédibles et pour qu'ils puissent de fait trouver de nouvelles formes d'évangélisation qui puissent parler au cœur de l'homme moderne. Le Jean-Paul II, surtout dans les dernières années de sa vie, aimait répéter que le saint est toujours le meilleur évangélisateur. Il a même dit une fois que le saint était le véritable évangélisateur. Ça, à la limite du déprimant. Bon. Non, on peut évangéliser avant d'être saint, mais il faut garder conscience que l'essentiel dans ce que l'on fait, c'est ce que l'on est. Et que, comme disent les philosophes, l'agir suit l'être. Comme dit Jésus, hein, on reconnaît l'arbre à son fruit. Enfin, tel arbre est tel fruit. Chacun produit selon ce qu'il est. Hein. Donc ici, c'est une école qui invite à travailler sur soi en vue de pouvoir accomplir sa mission. L'appel à grandir et à mûrir sans cesse, à porter toujours plus de fruits. C'est des expressions de Jean-Paul II. Cet appel à grandir, à mûrir sans cesse pour porter toujours plus de fruits. Nul n'est bon juge sur soi. Personne n'est autodidacte sur le chemin de la sainteté, sur le chemin de la maturité. On a absolument besoin des autres. On a absolument besoin de l'Église, qui est notre éducatrice. On a absolument besoin aussi de cette grâce qui est donnée aux pasteurs de l'Église, de former les fidèles, puisque mon ministère sacerdotal est au service de votre vocation baptismale. Alors, nous commençons cette école en essayant de comprendre les difficultés auxquelles les chrétiens dans notre monde occidental se heurtent. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans le renouveau charismatique. J'ai eu le temps de voir de nombreux convertis, fervents au départ, finalement se décourager et abandonner le chemin de la foi, parce que, si je puis dire, rattrapés par leur humanité blessée. C'est-à-dire que tant qu'on est dans un état de ferveur, comme un peu la lune de miel avec le Seigneur, vous voyez, les blessures, les failles et les maladies de l'âme n'apparaissent pas visiblement, mais ce temps de grande ferveur ne peut pas durer. Et ensuite, avec les années, ce sont l'humanité qui revient à la surface, le vieil homme. Et je me suis longtemps demandé, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que les convertis pensaient qu'en France, les deux tiers des catéchumènes qui sont baptisés, au bout de quelque temps, quittent l'Église. Pourtant, ce sont tous des convertis, ils ont tous fait une expérience de Dieu. Et les deux tiers finissent par abandonner la pratique. Donc ça pose une question quant à la capacité que nous avons dans l'Église en Occident, hein, en tout cas en France, à accompagner les personnes jusqu'au bout, de telle manière que ce ne soit pas simplement une expérience de Dieu au fond de leur cœur qui soit source d'une paix et d'une joie profonde, mais pas nécessairement durable, mais que ce soit une rédemption de tout l'être humain. Puisque Jean-Paul II a commencé son encyclique, sa première encyclique, en rappelant que le Christ est le rédempteur de tout homme et de tout l'homme. Donc pour moi, c'est une question de fond. C'est comment nous laisser sauver dans notre humanité, hein, et ne pas se retrouver divisé en nous-mêmes entre un cœur qui appartient à Dieu et un psychisme qui reste complètement délabré et qui nous rattrape le plus souvent, qui fait que nous n'agissons pas vraiment selon ce que nous voulons profondément.
Moi, je confirme ce que dit Louis, parce que avec Jean-Marc, d'ailleurs, on est déconvertis, enfin, c'est-à-dire après les événements de mai 68, enfin, en tous les cas, moi, j'étais assez paumée à tout point de vue, sur le plan intellectuel, psychologique, spirituel, je pratiquais moyennement, je ne sais même plus, j'ai eu un moment où j'ai arrêté d'aller à la messe, enfin bref, et parce que... Je sais pas, il marche pas. J'ai peut-être touché, hein. Ça va ? J'entends. Oui, ce que je voulais dire, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer donc un ami de ma mère, Pierre Goursat, qui est d'ailleurs qui est devenu fondateur de la communauté. Vous savez que les mères sont très inquiètes au sujet de leurs enfants, et donc elle a eu la bonne idée de choisir cet ami-là pour me sortir un peu d'un état dans lequel j'étais vraiment très mal, et plus de repères, plus rien. Et donc je me suis réellement convertie, c'est vrai. Donc très vite, j'ai fait une retraite fondamentale au foyer de charité. Et puis c'était les débuts du renouveau charismatique. Et que dire, c'est extraordinaire de se convertir. Mais comme disait Louis, c'est vrai qu'il faut être accompagné. Et nous, la chance qu'on a eue avec Jean-Marc, là, qui est là, mon mari, c'est qu'on s'est rendu compte que c'est bien gentil de se convertir, mais il ne faut pas rester seul. Donc nous, on a eu la chance donc, de connaître, d'assister à la fondation de la communauté de l'Emmanuel, et puis d'être accompagné, c'est vrai. Mais comme dit Louis aussi, il faut être très vigilant, parce qu'il y a toute cette période amoureuse, en quelque sorte. Enfin, on tombe amoureux du Christ. C'est vraiment le... Enfin, moi, je l'ai vécu comme dans l'Écriture. Le plus beau des enfants des hommes, tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire. Mais ensuite, bien évidemment, pour s'approfondir, on a besoin de l'Église, on a besoin de frères, et puis des sacrements, etc., d'être fidèles. Et puis, effectivement, de se construire petit à petit, et d'accepter ces failles, ces blessures qui remontent justement à la surface à un moment donné. Donc c'est là où on a vraiment besoin d'aide, je trouve.
En fait, elles remontent comme des pauvretés qui sont des sources de grâce. C'est-à-dire que si on accepte, c'est notre d'ailleurs Pierre qui disait, tant que je n'ai pas compris que j'étais un pauvre type, je n'ai rien compris. Ce n'est pas le pauvre type au sens dévalorisant, parce qu'en vérité, on n'est rien. Tout ce qui est bon en nous ne vient pas de nous. Je sais pas, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, dans la maturité spirituelle, nos faiblesses même, nos reniements, enfin, l'ensemble des choses qui devraient nous plomber, en fait, deviennent des endroits par où le Seigneur donne sa grâce. Et si bien qu'on grandit en humilité, en diminuant en soi.
Moi, je voudrais aussi rajouter que ce que tu dis sur ces douleurs, ce qui remonte à la surface, en fait, on peut être tenté de ne pas trop les regarder et finalement de laisser tomber cette avancée spirituelle, parce qu'en fait, c'est quand même objectivement douloureux de regarder ça. Ça fait mal, quoi, de regarder ce qui est ce qui appartient à la finitude de nos vies, ce qui est blessé, ce qui est l'échec ou le péché. Et donc, il faut avoir beaucoup de courage, en fait, pour faire ce chemin-là. Et donc, ça nécessite un travail sur soi, moral, spirituel, psychique. Ça nécessite l'examen de conscience. Nécessite, voilà. Donc, ça nécessite beaucoup d'efforts, en fait.
Moi, je rajouterais qu'on peut comprendre superficiellement ce qu'a dit Marc. C'est-à-dire, de fait, nos pauvretés peuvent être le lieu d'une ouverture plus grande dans l'humilité et la confiance à l'amour gratuit de Dieu, mais à condition qu'on accepte de les voir, à condition aussi qu'on accepte de se convertir là où il y a besoin de conversion, parce qu'il y a la blessure et puis il y a aussi l'infection de la blessure. On reviendra là-dessus dans le week-end sur la guérison. Et moi, personnellement, j'ai été longtemps dans quand même une sorte de fuite, en tout cas d'auto-aveuglement. Et mon leitmotiv, c'était, de toute façon, moi, le Seigneur aime les pauvres, mon humanité, ce n'est pas important, l'important, c'est ce qu'il y a dans mon cœur et que la foi et l'espérance et la charité que j'ai. Mais en fait, il y avait, je pense, une peur de traverser mes fragilités, de les voir. Voyez. Donc, il faut faire attention. On reviendra là-dessus parce que la petite voix d'enfance de la petite Thérèse, faite d'humilité, de confiance et d'abandon à la miséricorde divine, elle n'est pas séparable de tout le travail qu'elle a fait pour sortir d'un état de dépression, pour sortir des scrupules, pour sortir de son attachement maladif à sa sœur aînée, Pauline. Je vous citerai dans le texte un passage de Sainte Thérèse d'Avila qui dit des choses semblables, voyez, qui nous font comprendre qu'il faut être petit, c'est sûr, mais pour être bien petit, il faut aussi être grand. Voilà. Enfin, je vais m'expliquer. Hein. Mais en tout cas, ici, on va chercher surtout à parvenir à une maturité chrétienne qui nous permette de résister dans les moments d'épreuve, de ne pas nous laisser démolir par la dureté du monde. Je repense, voyez, à ce passage de l'Évangile. Dans la parabole du semeur, il y a deux situations, notamment. Il y a la situation du grain de blé qui est semé dans une terre qui n'est pas profonde. Hein, et le grain finit par sécher. Eh bien, Jésus dit, ce sont ceux qui n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ça, c'est la profondeur, en fait, de la vie intérieure. Ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Bon. Il y a des personnes qui se convertissent que superficiellement, si je puis dire. Et puis qui ne continuent pas ce chemin de conversion intérieure. Et puis, l'autre cas, c'est ceux qui commencent à grandir, qui ont accueilli avec joie, mais vous vous souvenez, hein, ce sont les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie qui les étouffent, et Jésus, ils n'arrivent pas à maturité. Et ça fait penser à toutes ces personnes qui se laissent reprendre par le monde, par l'esprit du monde, et sans bien s'en rendre compte. Ce qui m'a poussé à aller de l'avant par rapport à cette école, c'est deux événements douloureux. L'ami de mon beau-frère, un homme de 50 ans, 4 enfants, très engagé dans l'église, et qui s'est fait renvoyer de la boîte qu'il avait fondée avec d'autres amis. Il n'a pas supporté ça et il s'est suicidé. Il était aux équipes Notre-Dame, il était engagé dans le catéchiste. Ses funérailles ont eu lieu en plein été. Il y avait 6 prêtres, pour vous dire son insertion dans l'Église. Voyez, et il n'a pas eu la force de supporter cette épreuve. Bon, ça, je pense que c'est l'image de l'arbre qui grandit, qui est apparemment fort, mais il manque les racines profondes et quand la tempête vient, peut-être basculer d'un coup. Voyez, Puis je repense aussi à deux prêtres de l'Emmanuel qui ont quitté le sacerdoce pendant cet été, hein, dont l'un a fait un enfant avec une femme qui est en Afrique, qu'il allait retrouver. Enfin, c'était une conduite tout à fait irresponsable. Puis il a quitté dans le même coup le ministère, tout. Et je me dis qu'on peut, vivre sa foi dans la tête, avoir de belles pensées chrétiennes, de grandes aspirations, et pas se rendre compte qu'on est en train de suivre un autre chemin, de se laisser prendre par toutes sortes de convoitises. Puis il y a un moment où ça explose. De toute façon, il y a toujours un problème, on va y revenir, d'unification. Problème, comme disait le père Thomas, de mettre l'humanité à niveau et de ne pas rester divisé en soi, qu'on s'en rende compte ou pas. Ce problème de division en soi est fondamentalement lié au péché originel, c'est ce que l'Église nous enseigne. L'harmonie dans laquelle nous avons été créés a été détruite. La maîtrise des facultés spirituelles de l'âme sur le corps est brisée. Refusant de reconnaître Dieu comme son principe, l'homme a rompu toute harmonie, soit par rapport à lui-même, soit par rapport aux autres hommes et à toute la création. Donc, depuis le péché originel, il y a un déséquilibre fondamental qui est d'abord dans le cœur de l'homme, qui s'est éloigné de son créateur, et ça c'est le premier déséquilibre primordial, la plus grande injustice, hein, qui est la source de tous les autres déséquilibres. Et se rajoute à ça l'influence de la société, d'une société, comme a dit Benoît XVI, en décomposition progressive, qui nous fragilise tous, et qui fait qu'on se laisse entraîner facilement par toutes sortes de courants, hein, de pensées dominantes, et par le prince des ténèbres lui-même. C'est donc en lui-même que l'homme est divisé, dit le Concile. Chacun se sent comme chargé de chaînes. Mais le Seigneur en personne est venu pour restaurer l'homme dans sa liberté et sa force. Voilà, le Seigneur nous veut petits, on est tous des pauvres, et en même temps, il nous veut libres et forts. Il est venu nous restaurer dans notre humanité, tout entière. Et donc ici, vous voyez, on peut repenser au cri qui a jailli de Jean-Paul II dans la première messe qu'il a célébrée, la première messe de son pontificat, quand il a dit « Ouvrez tout grand les portes au Christ », c'est ouvrir tout grand les portes de l'humanité au Christ pour que tout puisse être restauré dans la liberté et la force que nous donne l'Esprit Saint. Mais cette restauration de l'homme dans son humanité elle-même, elle ne peut pas se faire sans de grands efforts, sans nous. Hein, comme dit saint Augustin, Dieu nous a créés sans nous, mais il ne nous sauve pas sans nous. Et à ce sujet-là, le Concile a une belle expression. Il dit, engagé dans cette bataille, l'homme ne doit sans cesse combattre pour s'attacher au bien, et non sans grands efforts, avec la grâce de Dieu, il parvient à réaliser son unité intérieure. Alors, vous voyez, ici, il y a un équilibre. C'est-à-dire, d'un côté, il faut rester conscient qu'on est divisé en nous-mêmes, chargé de chaînes et incapable de retrouver la liberté des enfants de Dieu, incapable de retrouver la vraie force, que c'est vraiment, on a absolument besoin d'être sauvé, repris par le Christ. Et en même temps, il faut tenir que ça ne se fera pas sans de grands efforts de notre part. Et je vois que dans le renouveau charismatique, en tout cas pendant un temps, il y a quand même pas mal de nouveaux convertis qui ont confondu la voix d'enfance avec la voix d'une passivité mauvaise, qui fait que comme on est pauvre, ben on n'a pas de grands efforts à faire. Hein. De toute façon, on est tellement, tellement faible que le Seigneur, et puis le Seigneur est tellement miséricordieux que vraiment c'est pas la peine de se booster, comme on dit maintenant, hein, parce que de toute façon c'est le Seigneur qui va agir. Dans le christianisme, a dit Benoît XVI, il n'y a rien de magique. Il a rajouté, il n'y a pas de raccourci. Le chemin de la sanctification, il n'a pas changé depuis 2000 ans. C'est toujours la même bataille, toujours le même combat, toujours le même engagement, hein, et toujours les mêmes grandes étapes. Qu'on ait redécouvert qu'il y a un Esprit Saint, qu'il est agissant, que le Seigneur Jésus est présent, qu'il agit en nous, ne nous dispense pas de nous approprier toute la grande tradition ascétique, j'ai rajouté aussi pénitentielle, la grande tradition mystique, qui décrit cette coopération de notre liberté à la grâce.
Moi, je confirme. Il y a du chemin à faire, quoi.
Moi, je crois que, par exemple, pour se coopérer, c'est important de savoir chaque jour ce qu'on peut faire pour coopérer. Non pas que ça reste une idée vague, mais que tous les matins, voilà, on fasse un petit bilan de aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ? Voilà. Parce que la sainteté n'est pas la même d'une année sur l'autre, en fait. Le Seigneur nous donne autre chose à vivre à chaque fois. C'est ce qu'on appelle quand on dit « hic et nunc », qu'est-ce que je fais aujourd'hui, maintenant, devant telle personne ? Voilà.
Écoutez Jean-Paul II. L'homme est interpellé dans sa liberté par l'appel de Dieu à croître, à mûrir et à porter du fruit. Il ne peut pas ne pas répondre. Il ne peut pas ne pas assumer sa responsabilité. On est responsable de notre croissance. On est responsable de ce qu'on devient. Dieu nous appelle à travailler sur nous-mêmes. C'est même ce qui dépend le plus de nous. Mais pas de changer les autres, c'est pas de changer le monde, c'est changer soi. Avec le Seigneur, ou plutôt, non pas moi, mais la grâce de Dieu avec moi, mais pas sans moi. Et ici, l'important, c'est d'avoir cette sagesse qui consiste à discerner là où se situe l'engagement de notre liberté. De réellement voir ce qui dépend de nous. De tomber ni dans une mauvaise passivité, ni dans le volontarisme, ni dans ce que Benoît XVI appelle le moralisme héroïque, hein, mais de trouver cette ligne de crête qui fait que je prends la vague de la grâce. J'épouse le dynamisme de la grâce. Je seconde l'action de la grâce. Je me laisse vraiment faire tout en faisant moi-même. Alors, ce que je voudrais, c'est donner sur ce chemin des repères, quelques grands principes, des grands axes, des choses que moi j'ai mis des années et des années à comprendre. J'espère que vous pourrez les comprendre plus vite que moi. Mais ce qui est sûr, c'est que vous n'allez pas parvenir à une pleine maturité chrétienne en l'espace de 6 mois. Ce serait de la publicité mensongère pour cette nouvelle école. Voyez, c'est simplement une aide, un encouragement, quelques perspectives pour qu'ensuite bien, vous vous laissiez conduire par le Seigneur, mais en étant plus conscient de la nécessité de votre engagement et puis de la manière dont vous pouvez de fait travailler sur vous-même. Alors, dans ce premier enseignement, je voudrais insister sur l'aspect de l'unification. Quand Jean-Paul II a parlé de la formation des fidèles dans son exhortation apostolique Christi Fideles Laici, il a parlé d'une formation intégrale, donc de tout l'homme, en vue d'une unité de vie, c'est-à-dire pas de divorce entre la foi et puis la vie réelle. Un divorce qui peut se vivre dans les monastères, qui peut se vivre dans les presbytères, qui peut se vivre dans les bonnes familles traditionnelles catholiques. Un divorce dont on ne se rend pas toujours compte, parce qu'on garde encore une fois de belles pensées et de grandes aspirations, mais on ne voit pas réellement comment on vit, ni comment on pense. Il y a un fossé qui peut se creuser à notre insu. Travail donc d'unification de l'être et de la vie. Dans son exhortation sur la formation des prêtres, cette fois-ci, Jean-Paul II a approfondi sa réflexion. Il a distingué la formation humaine, la formation spirituelle, la formation intellectuelle et la formation pastorale. Il a insisté sur le fait que tout est lié. Je ne reprends pas tout, mais je cite notamment le fait que pour lui, la formation humaine est fondamentale. Il s'agit de construire des personnalités équilibrées, fortes et libres. Ça vous dit ça ? Être équilibré, fort et libre. Ce n'est pas interdit. Hein ? On peut se sentir qu'on arrive à un équilibre, une force et une liberté, tout en étant en même temps conscient qu'on est un pauvre type, entre guillemets. Moi, j'aime pas trop l'expression pauvre type, mais disons un pauvre. Hein ? L'un n'empêche pas l'autre, vous voyez ? On va y revenir, cette question un peu délicate. Mais en tout cas, un chrétien, c'est un homme qui laisse le Christ le conduire dans un nouvel équilibre, une nouvelle force et une nouvelle liberté. Regardez la force, la liberté d'un Jean-Paul II, regardez la liberté de Benoît XVI, cette force qui se déploie aussi dans la faiblesse, mais qui transforme réellement l'humanité de la personne en même temps. La formation humaine, elle est qualifiée de fondamentale, mais la formation spirituelle est centrale, et c'est elle qui unifie l'être et la vie du chrétien, et elle est l'élément le plus important. Vous voyez, formation humaine, formation spirituelle, Jean-Paul II insiste sur le fait que la formation humaine s'ouvre et se complète dans la formation spirituelle. En fait, on ne peut pas séparer les deux. C'est pour ça que moi, je parlerai ici d'une maturité humaine et spirituelle tout à la fois. On ne peut pas séparer les deux. C'est notre humanité qui est elle-même transformée par la grâce, et la vie spirituelle nécessairement rayonne sur l'humanité, la vie spirituelle au sens de la vie théologale au fond de notre cœur, elle rayonne forcément sur notre humanité. Mais il y a aussi la formation intellectuelle. La formation intellectuelle, ça peut paraître par rapport à tout ça comme quelque chose de finalement assez, comment dire, superficiel, on se dit, bon, parce que parmi les deux prêtres qui ont quitté le sacerdoce, il y avait quelqu'un qui était très brillant et qui donnait des enseignements à Paris. Et donc au niveau intellectuel, moi j'ai toujours pensé qu'il était beaucoup plus formé que la plupart des prêtres. Bon, mais ça ne l'a pas empêché de tomber. Hein ? Mais par formation intellectuelle, l'Église n'entend pas une formation de l'intellect. Elle entend, si je reprends les termes utilisés par Jean-Paul II, une acquisition de la sagesse. Et la sagesse, c'est d'abord l'intelligence du cœur. C'est une manière de percevoir la vie, les choses de la vie, dans une lumière nouvelle qui pénètre de l'intérieur et transforme de l'intérieur toute notre manière de penser. Or, encore une fois, on peut avoir de très belles idées chrétiennes dans la tête et penser les choses de la vie complètement, d'une manière complètement séparée de la foi. Et, on est amené à parler de sa foi, à témoigner, on va dire, des très belles choses. Et puis, on se retrouve en famille et on est heurté à une difficulté. Et puis, on réagit en pensant ceci, en disant cela. Et puis, alors, complètement en décalage. Ça vous rappelle des souvenirs ou non? Personne veut... Non? C'est tellement évident. C'est tellement évident, mais je pense qu'en même temps, on peut ne pas s'en rendre compte. Vous voyez? Et je pense aussi à tous ces cadres chrétiens. Il y en a, j'ai eu récemment, c'était quelqu'un qui disait ça un peu sous la forme d'une boutade, mais ça aurait été l'expression d'un patron chrétien qui disait: moi le matin je prie, l'après-midi je tue, le soir je demande pardon. Au moins lui il était conscient, voyez. Mais au fond, pour en arriver à dire ça, le matin je prie, l'après-midi je tue, le soir je demande pardon, il faut penser que au fond la vie de l'entreprise est fondamentalement incompatible avec l'Évangile. Et déjà de penser ça, c'est un manque de foi. C'est déjà une intelligence qui ne cesse plus éclairée par la sagesse divine, qui n'arrive pas à intégrer le primat de la grâce, l'omniprésence de Dieu et la toute-puissance de la Providence. Qui met Dieu en réalité hors jeu, tout en se voulant chrétien. Il me revient à l'esprit un exemple d'un patron qui, au début du XXe siècle, avait gagné beaucoup d'argent dans les usines du Nord. Et il s'est dit, je vais pouvoir faire une deuxième usine. Construire une deuxième usine pour gagner encore plus d'argent. Et il a eu le réflexe incroyable, je ne sais pas combien de patrons chrétiens auraient ce réflexe, de faire d'abord un pèlerinage à la basilique du Sacré-Cœur pour demander à Dieu si c'était bien sa volonté. Ça vous semble un réflexe évident ? Oui. Vous avez l'argent, vous avez la possibilité d'en gagner encore plus, vous pouvez investir, vous pouvez... Et vous arrêtez là et vous posez la question, est-ce que Dieu le veut ? Ça, c'est agir en croyant. Il y a combien qui agissent en croyant ? Bon, il a fait son pèlerinage et il a entendu non. Il faut déjà entendre. Non contre tous les raisonnements humains. Ben vous devinez la suite, hein ? Quelques années après, son usine était détruite avec la Première Guerre mondiale. Comme il avait gardé son argent, il a pu tout reconstruire. Sinon, il aurait tout perdu. Ça, un exemple d'une foi intégrée. Mais dans le monde tel qu'il est, combien de personnes, au niveau de la formation intellectuelle, puisque c'est l'expression de Jean-Paul II, ont cette sagesse de remettre Dieu au centre, de remettre Dieu en jeu, et de ne pas penser les choses comme si Dieu n'existait pas. Dans un monde qui, de fait, ne cesse de penser les choses depuis longtemps comme si Dieu n'existait pas. Ben, nous ne pensons pas comme le monde. Voyez. Donc, la question de la formation de l'intelligence, en réalité, elle est très importante dans cette formation humaine. Elle n'est pas séparée de la question de la formation humaine et spirituelle. Il y a beaucoup d'intelligences qui ne sont pas vraiment en profondeur purifiées et ouvertes à la lumière divine, qui ne se laissent pas pénétrer jusqu'au bout par l'Évangile, par la parole de Dieu. cette formation humaine et spirituelle que nous avons essayé de mettre en évidence, elle ne peut se vivre que dans la perspective de la sainteté, évidemment. Je vais expliquer qu'elle n'est pas la même chose que la sainteté, mais elle est une étape nécessaire sur le chemin de la sainteté. J'en suis de plus en plus convaincu. Je ne l'étais pas du tout quand j'étais jeune prêtre. Je me disais que je pouvais rester très fragile, très, 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 très blessé, que ce n'était pas gênant, parce que de toute façon, la puissance se déploie dans la faiblesse. Et puis, en fait, maintenant, je vois les choses différemment. Je vois les choses différemment. Puis aussi, j'ai vu trop de chutes autour de moi pour ne pas ouvrir les yeux. Mais il faut garder la perspective de la sainteté comme étant le vrai but. Il n'y a pas d'autre but. La maturité chrétienne, ce n'est pas un but en soi. Alors, comment on peut faire la distinction entre la maturité et la sainteté? Je pense que c'est important de la mettre en évidence. En reprenant une notion qu'on utilise peu, mais qui est présente dans les écrits notamment de saint Paul, entre ceux qu'il appelle les charnels et les spirituels. Les charnels, c'est ceux qui vivent selon la chair. C'est-à-dire, en fait, ils se laissent mener par les passions. Ils ont quelquefois l'impression d'être libres parce qu'ils font ce qu'ils veulent, comme ils disent. Mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est ce que leurs passions veulent. Et en fait, ils sont esclaves à leur insu. Et ils vivent dans le sensible, en goûtant ce qui est sensible et en se laissant mener par le goût qu'ils ont aux choses sensibles. Ça n'empêche pas qu'ils aient une vie de prière, voyez, mais cette vie de prière ne transforme pas leur manière de réagir aux choses, de goûter les choses, parce qu'ils vivent le plus souvent non pas avec le cœur, leur cœur qui est habité par Dieu, mais ils restent au niveau psychique, on va dire par exemple au niveau affectif. Et donc, saint Paul, quand il parle des charnels, c'est dans la communauté chrétienne, ceux qui, par exemple, sont pleins de jalousie, d'envie, qui sèment le désordre dans la communauté parce qu'ils vivent les choses d'une manière passionnelle et ça fait du dégât dans la communauté chrétienne. Et puis, les spirituels, c'est ceux qui se laissent conduire par l'Esprit-Saint, réellement dans leur vie.
Je crois que c'est important de savoir que les spirituels, pour en arriver à cette sagesse, ils ont vraiment fait une démarche, non pas de nier qu'ils pouvaient avoir des appétits, des désirs charnels, mais ils les ont accueillis, ils les ont posés sous le regard de Dieu. Voilà. Ils se sont demandé ce que ça voulait dire pour eux, et ils ont fait un chemin là-dessus. Ils ne l'ont pas occulté, refoulé.
Ce qui caractérise l'homme spirituel, beaucoup chez saint Paul, c'est qu'il est capable d'un jugement qui est selon Dieu. Saint Paul dit que le spirituel juge de tout et qu'il a la pensée du Christ. Il dit à un autre moment, « Frères, ne soyez pas des enfants pour le jugement, des petits-enfants pour la malice, soit, mais pour le jugement, soyez des adultes. » Ça rejoint ce que je vous disais sur la formation intellectuelle. Ça fait partie en réalité de la maturité chrétienne que d'être capable d'un jugement éclairé, personnel. On ne se laisse pas influencer ni par ses passions, puisque les passions entraînent la raison, comme dit saint Thomas d'Aquin. On ne se laisse entraîner ni par ses passions, ni par les modes du monde, la pensée dominante. Mais on arrive à se laisser conduire par l'Esprit Saint en laissant notre intelligence être éclairée par cet esprit de vérité. Et en même temps, en laissant notre affectivité être purifiée et fortifiée par cet esprit d'amour. Écoutez Jean-Paul II, qui, dans son dernier livre, Mémoire et identité, a témoigné du chemin, il n'a pas voulu témoigner directement de sa vie, mais on devine qu'il a parlé aussi du chemin qu'il a fait lui-même. Et il reprend la distinction classique entre la voie purgative, la voie illuminative et la voie unitive. La voie purgative, c'est tout le chemin que le charnel a à faire pour pouvoir se laisser vraiment pénétrer et transformer par l'Esprit Saint, pour pouvoir se laisser conduire par l'Esprit Saint, être docile à l'Esprit Saint. Une fois qu'on est, je dirais, libéré de l'esclavage des passions, on rentre dans ce qu'on appelle l'étape illuminative. Ça nous redit encore que, à travers cette liberté par rapport aux passions, on accède aussi à une nouvelle manière de penser. On est éclairé. Écoutez Jean-Paul II. De la sorte, sur le chemin de la vie intérieure, l'étape illuminative émerge graduellement de l'étape purgative. Avec le temps, dans la mesure où l'homme suit avec persévérance le Maître, qui est le Christ, il ressent toujours moins à l'intérieur de lui-même le poids de la lutte contre le péché et il jouit toujours plus de la lumière divine. Rappelez-vous ce que dit saint Paul, hein, « Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, je fais le mal que je ne veux pas. Hein, » Ça, c'est l'esclavage des passions. Il dit « Il ressent toujours moins à l'intérieur de lui-même le poids de la lutte contre le péché. » Ça, c'est Jésus qui restaure dans la liberté. On n'est plus tiraillé, divisé en soi-même. On n'a plus à être constamment dans une sorte de vigilance tendue, si je puis dire. Quand on va rencontrer, par exemple, se retrouver dans un milieu féminin, et puis qu'on serait là à devoir faire attention parce que le moindre truc réveillerait en nous des désirs et qu'on est comme ça. Non, on sent, j'ai envie de dire qu'on peut se laisser aller, non pas dans ce sens-là, mais qu'on peut être soi-même et qu'il y a une unité et puis une liberté de fait qui est donnée parce qu'on est unifié. On n'a plus peur de soi. Moi, en vous disant ça, j'ai devant les yeux l'image de Jean-Paul II. Dans les dernières, je pense que c'était pendant les JMJ de l'an 2000. Il y a une jeune fille qui a réussi à traverser tous les barrages de sécurité, à monter jusqu'au pape et qui s'est vraiment étalée sur lui. Vous vous souvenez ? Et donc, elle était là, sa poitrine collée contre la poitrine du pape. Voyez, elle ne l'embrassait pas, mais c'était presque. Et le pape, il n'a pas du tout manifesté une sorte de gêne. Il l'a prise avec ses deux mains, posées sur son dos, dans une étreinte à la fois forte et extrêmement pure. Et c'était très beau à voir. Voilà, l'homme qui ne sent plus de tiraillement, il est capable de ça. sans qu'il y ait le moindre petit, voyez, petite chose qui se mêle, qui soit liée à un instinct non purifié. Enfin, non, c'était parfaitement harmonieux. Ça, c'est l'étape illuminative. Il est ainsi permis à l'homme de sortir d'une situation où il est constamment exposé intérieurement au risque de péché, ce qui toutefois sur cette terre reste dans une certaine mesure toujours présent, afin de se mouvoir avec une liberté toujours plus grande au milieu de tout le monde créé. Il conserve également cette liberté et cette simplicité face aux autres, aux êtres humains, y compris ceux de l'autre sexe. La lumière intérieure éclaire ses actes. L'homme restauré. Cette étape illuminative, elle est nécessaire pour parvenir à l'étape unitive qui correspond à la sainteté. Correspond à une union plus intime encore à Dieu et qui suppose en réalité un abandon total, une confiance absolue, celle du tout petit. Le but de la vie, c'est pas de se sentir bien, même si c'est agréable. C'est pas de jouir de cette unification, même si c'est très agréable. C'est pas de se sentir maître de soi. Le but de la vie, c'est de sortir de soi. C'est pas de trouver sa joie dans sa perfection morale. C'est de trouver sa joie en un autre que soi. Mais oui.
Mais cette question de la perfection morale dans laquelle on se complairait, elle ne se pose pas vraiment parce que dans cet état-là, on est brûlé par la charité, je suppose.
Je pense que celui qui grandit dans cette liberté par rapport aux passions de la chair n'a pas nécessairement achevé de briser l'orgueil en lui. Parce qu'il y a deux pôles dans le péché. Il y a l'esprit de possession, la cupidité, la convoitise, tout ce qui est attachement, attachement à la créature, comme on disait avant. Et puis il y a le pôle de l'orgueil, qui est le péché le plus secret, et qui est la racine la plus profonde du péché. Donc ce n'est pas parce qu'on est grand, au niveau de cette liberté intérieure, de cette force, de ce qui a été décrit, qu'on est vraiment tout abandonné à Dieu, comme un tout petit. Mais je dis simplement que pour parvenir à la vraie toute petitesse, il faut avoir grandi. Il faut se posséder pour s'abandonner totalement. On ne peut pas s'abandonner totalement à Dieu en étant encore attaché à toutes sortes de passions. C'est le fil à la patte qui empêche l'oiseau de voler. En fait, ce qui nous empêche de voler, ce n'est pas les passions elles-mêmes, c'est notre complicité intérieure aux passions. La complicité intérieure aux passions, l'attachement à nos attachements, elle est dans notre cœur. Et elle est en directe opposition à l'attachement à Dieu. On a un cœur partagé. Je veux dire qu'il y a des personnes qui peuvent garder des grosses tendances charnelles, comme je pense à la boulimie. On peut être un saint et avoir des crises boulimiques ou même des formes d'accès un peu de colère. paraît que Saint Ignace, c'est les dominicains qui racontent ça, qui claquait les portes jusqu'à la veille de sa mort. Bon, pas obligé de prendre ça au pied de la lettre, mais il y a des saints qui étaient connus pour avoir des caractères un peu difficiles, voyez. Mais ils étaient pas attachés à leur passion mauvaise. C'était des plis dans la chair qui n'étaient pas entièrement cicatrisés. Voilà. Mais c'est pas l'esclavage des passions. C'était pas esclave pour autant. Mais on reviendra là-dessus quand on parlera de la guérison. Mais ce qui est sûr, c'est que on peut parvenir à la maturité sans parvenir à la sainteté. On peut s'arrêter, se trouver bien et se complaire dans un certain état de liberté en se disant qu'on est quand même une tête au-dessus de la moyenne. Or non, si on grandit, c'est dans l'espérance de pouvoir redevenir plus petit. C'est dans l'espérance de pouvoir vivre cet abandon total qu'a vécu la petite Thérèse, qu'ont vécu tous les saints pour sortir vraiment de soi. Parce que le don total de soi, il est dans l'abandon total.
En fait, quand on a grandi, moi je pense qu'on connaît nos attachements et on est donc en sécurité et donc on peut les lâcher. On peut être plus petit en les lâchant puisque on n'a pas d'angoisse par rapport à ça. On existe en fait. On a compris que notre structure intérieure n'est pas menacée quand on lâche quelque chose.
Je vous donne un exemple d'une personne qui a reçu de Dieu un appel très fort, qui a été éclairée au départ vraiment par la lumière de l'Esprit-Saint pour se lancer sur un chemin, un chemin spirituel vraiment d'une grande authenticité. Il s'agit de Sainte Thérèse d'Avila. Elle a 17-18 ans. Je voyais le néant des choses d'ici-bas, la vanité du monde et la brièveté de la vie. Je me prenais à trembler en considérant que si la mort était venue, elle me trouvait sur le chemin de l'enfer. Je ne pouvais encore me déterminer à embrasser la vie religieuse. Mais déjà cet état me paraissait le meilleur et le plus sûr. Et ainsi, peu à peu, je résolus de me faire violence pour l'embrasser. Ça décrit quoi, ça? Ça décrit, voyez là, la personne touchée par la lumière divine, vraiment une grâce particulière pour voir le néant de la gloire humaine, la vanité du monde, et en même temps le sérieux de la vie. Notre vie sur terre, c'est un jour qui passe. C'est l'éternité qui nous attend, qui se joue maintenant. Bon, ça, dans une perception très forte intérieure, pas au niveau de la tête. Au niveau de la tête, tout le monde est d'accord, mais tout le monde ne le voit pas. Elle le voit. Et en même temps, vous voyez, au niveau de son psychisme, au niveau de son humanité de femme, de jeune femme, une grande répugnance, elle le dit avant, pour la vie religieuse. Parce que Sainte Thérèse d'Avila, à 17-18 ans, c'était les toilettes. C'était le besoin de plaire. Elle s'était laissée entraîner par une cousine qui l'avait un peu, pas dire pervertie, mais qu'il avait mondanisé. Et en fait, parce que petite, elle avait senti un appel. Puis c'était parti au moment de l'adolescence. Alors là, elle reçoit cette lumière. Mais, vous voyez, elle est complètement divisée en elle-même. Elle va se faire violence. Et regardez comment elle va se faire violence, parce que, en fait, son père, qui est attaché à sa fille, refuse sa vocation religieuse. Elle voit Dieu, si je puis dire, premier, et donc elle va désobéir. Avant de s'évader de la maison paternelle, hein, elle était tellement forte dans sa vision que je montrais à l'un de mes frères la vanité du monde et le décidais à se faire religieux. Ouais. Mais toute forte qu'elle était dans son esprit, vous voyez, dans sa perception, elle restait profondément divisée en elle-même. Écoutez-la. Je me souviens, et c'est bien, d'après tout ce qui me semble exacte vérité, qu'au sortir de la maison de mon père, j'éprouvais de telles angoisses que la mort, je crois, ne saurait m'en réserver de plus vive. Il me semblait que tous mes os se détachaient les uns des autres. Elle est là, la disharmonie. Elle se fait une violence extrême sur elle-même. Il n'y avait pas encore en moi un amour de Dieu assez fort pour dominer celui que je portais à mes parents et à mes proches. La lutte fut telle que si le Seigneur n'était venu à mon secours, toutes mes considérations eussent été impuissantes à me faire avancer. Il me donna alors le courage de triompher de moi-même et je pus exécuter mon dessein. Alors, après cet acte héroïque, Sainte Thérèse d'Avila a connu une petite lune de miel. Elle a eu des grâces de prière, de joie, de paix. Mais malheureusement, elle est tombée dans un monastère où il y avait beaucoup de mondanité, où les sœurs n'arrêtaient pas de recevoir. Et elle a été reprise par le vieil homme, qui était toujours là. Et c'est pour ça qu'elle explique qu'en fait, elle a perdu près de 20 ans de sa vie, parce qu'au niveau de l'affectivité, elle n'arrivait pas à couper. Elle n'arrivait pas à se purifier. Elle n'arrivait pas à cette liberté, cette force, cette restauration. Et elle explique aussi que ces difficultés ont été liées aussi au fait qu'elle n'a pas, elle n'était pas consciente de la nécessité d'aller jusqu'au bout de cette purification d'elle-même. Puis elle avait des confesseurs qui n'arrêtaient pas de lui dire « c'est pas grave ». Et donc, comme tout le monde faisait ça dans le couvent, au moment où les confesseurs s'étaient résignés, ou je ne sais pas, en tout cas, pendant des années et des années, elle n'a trouvé personne pour être assez exigeant avec elle. Résultat, elle lisait des livres, là, elle lit un livre très sévère, et elle disait, je n'étais pourtant pas exempt de faute que l'exigeait mon livre. Je n'y aspirais pas même, parce qu'à mes yeux, une si parfaite vigilance était chose presque impossible. Je veillais seulement avec une grande attention à me préserver de tout péché mortel. Mais pour les péchés véniels, je n'y regardais pas de si près. Et ce fut là ce qui fit tant de mal à mon âme. Moi, je pense qu'un prêtre qui quitte le sacerdoce comme ça, brutalement, qui part dans une relation sexuelle avec une femme qu'il retrouve en Afrique, qu'il avait peut-être connue avant d'être séminariste, je ne sais pas, mais en tout cas, qui fait une grosse bêtise comme ça, ça ne peut être qu'un homme qui, par rapport au péché véniel, a considéré que ce n'était pas grave. Oui. Mais ça, ce qui est gênant, c'est pas qu'on commette des péchés, pas des péchés véniels. Le juste pêche sept fois le jour. Ce qui est gênant, c'est l'attachement au péché. Et Sainte Thérèse d'Avila, elle est restée pratiquement bloquée pendant 18 ans parce qu'elle n'a pas coupé les fils. Il peut y avoir des personnes qui n'arrivent pas à la maturité jusqu'à leur mort parce que se donnent le droit à des petits péchés mignons. Mais en réalité, il n'y a pas de petits péchés mignons. T'en connais, toi ? Voyez, on vit dans un monde qui nous pousse à déculpabiliser, comme on dit. Hein, donc, on finit par être complaisant avec des choses qui ne sont pas selon la vérité de l'Évangile. Et encore une fois, le plus grave, c'est la complicité intérieure. Je donne un exemple pour ma propre vie. Je me compte maintenant dans ma chambre, enfin dans mon bureau, il y a toujours un certain désordre. Mais je suis contre le désordre. Et je fais des efforts chaque jour pour remettre un peu d'ordre. Alors qu'avant, je trouvais que de toute façon, ce n'était pas grave, ça ne gênait que moi. Or, non, Dieu est un Dieu. N'est pas un dieu de désordre, comme dit saint Paul, mais un dieu d'ordre. Et le fait de mettre de l'ordre chez soi, on sait bien que ça aide de mettre de l'ordre dans la tête aussi. Hein? Mais ça, c'est une petite chose, vous voyez. Mais la personne qui se complaît dans un certain désordre, en disant, moi, de toute façon, je suis anarchique, je suis machin, tout ça, hein? Ben, n'arrivera jamais à la maturité. Dommage, hein. Comme elle n'arrivera jamais à la maturité, elle n'arrivera jamais non plus à la sainteté. Parce qu'elle n'aura pas trouvé ce chemin de liberté. Vous voyez ? Donc, il faut déclarer la guerre totale. Déclaration de guerre à soi-même. La guerre avec soi-même jusqu'au bout pour retrouver notre vraie personne et nous libérer de notre vieil homme qui n'est pas notre vraie personne. Évidemment, si on dit « moi, je suis comme ça », je ne peux pas me changer, mais je suis comme ça. Non, je ne suis pas comme ça. Ce n'est pas ma véritable humanité. Dieu ne nous a pas créés avec des tendances comme ça. C'est le résultat de mes blessures, de mes réactions aux blessures, de mon parcours. Mais c'est ma personnalité psychologique blessée, mais ce n'est pas ma vraie personne. Ma vraie personne, elle, je la découvrirai quand je me serai dépouillé du vieil homme. Ça vous intéresse toujours l'école de vie chrétienne ou vous voulez en suivre une autre ?
Moi, je pense que psychologiquement, c'est important de noter quand on se définit facilement comme ça, avec des étiquettes un peu rapides, savoir un peu d'où ça vient, pourquoi on se définit comme ça. Est-ce que c'est des choses qui nous viennent depuis longtemps, depuis l'enfance? Et puis aussi, moi, je pense que c'est vraiment contraire à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est souple. Et donc, quand on est adulte par rapport à ça, on peut changer. C'est important d'accueillir l'émotion de l'Esprit Saint par rapport à ça.
En fait, le but, c'est quand même, enfin, la maturité, c'est quand même de pouvoir vivre de plus en plus avec le cœur les choses. C'est-à-dire que ça vienne vraiment de l'intime de nous-mêmes, nos paroles, nos actions. C'est là où on a besoin d'être unifié pour rester en contact avec son cœur profond et pas être parasité et finalement étouffé par l'engrenage des passions qui fait qu'on reste aussi à la superficie de soi. Il y a beaucoup de gens qui restent au niveau du mental et au niveau de leur sensibilité comme ça, épidermique, et qui ne sont pas vraiment, restent pas vraiment en contact avec leur cœur. Et en réalité, l'homme libre, c'est celui qui agit selon son cœur. Et le cœur devient le moteur intérieur de toutes nos activités. Moi, encore ce matin, j'ai eu une réaction d'énervement, de colère, parce qu'on m'a raconté un truc, tout ça. Et en même temps, avec le recul, je me suis rendu, j'étais fatigué, et de fait, j'ai pas réagi avec la charité, avec le cœur, parce que j'ai réagi comme ça, de manière épidermique et immédiatement. Voilà. Ça n'a pas dépassé des bornes terribles. De toute façon, j'ai dit, je suis énervé, donc. J'étais conscient que j'étais dans un état d'énervement, mais c'est parce que l'état de fatigue, il y avait eu avant 3 heures de réunion, et j'étais saoulé, et voilà, on n'est plus intériorisé. De fait, il faut faire attention, je me rends compte, aux états de trop grande fatigue qui fait qu'on ne peut plus agir avec le cœur. On est dans une sorte de somnolence spirituelle. Le cœur est étouffé par tout un état qui fait que on n'arrive plus à se brancher intérieurement. En réalité, celui qui agit selon ses passions, il est passif au mauvais sens du terme. C'est-à-dire, il se laisse mener. Il pense être libre au sens où il fait ce qu'il veut, entre guillemets, mais ce qu'il veut n'est pas vraiment ce que lui veut. Ce qu'il veut, c'est le résultat d'une raison qui est entraînée par les passions. L'Écriture nous invite donc, à considérer notre humanité comme une terre qui doit être cultivée en arrachant toutes les mauvaises herbes, voyez, de telle manière qu'elle puisse ensuite se laisser pénétrer par la parole de Dieu et porter du fruit. Mais je pense aussi, voyez, que si on ne se désencombre pas, et qu'on ne fait pas ce travail de libération, on est une terre qui ne peut pas bien accueillir la parole de Dieu, parce qu'il y a trop de choses qui étouffent le cœur et qui fait qu'on n'arrive pas à vraiment entendre avec le cœur. Il y a un prêtre qui, voyez, qui enseigne pendant des années, qui a une grande science théologique et qui quitte le sacerdoce du jour au lendemain pour vivre en couple, est un prêtre qui n'était plus à l'écoute de la parole de Dieu, même s'il passait des heures par jour à lire l'Écriture. Parce que quand la parole de Dieu est vraiment entendue avec le cœur, elle transforme vraiment. Ici, il me revient une image, voyez, d'un pasteur, enfin, qui s'est converti, ancien pasteur pentecôtiste, Richard Borgman, que mes frères de l'Emmanuel connaissent, hein, et qui me disait qu'au niveau de la prédication, lui, ce qu'il cherchait, c'est à rejoindre la terre fertile du cœur. J'ai bien aimé cette expression. La terre fertile du cœur. Mais qu'il y avait une grosse couche de béton qui empêchait la parole d'être semée dans la terre fertile du cœur. Et il me disait que dans un pays comme le Brésil, la couche de béton était petite, qu'aux États-Unis, elle était un peu plus grande, mais qu'en France, c'était Pas sûr, il faut dire qu'on a le maximum de béton, mais c'est évident qu'on est extrêmement, je dirais, il y a d'énormes couches qui nous polluent, qui font une résistance à la parole de Dieu. Le chemin de la maturité chrétienne, c'est un chemin qui vise à casser cette couche. Et pour pouvoir à nouveau être vraiment pénétré par Dieu, par sa parole, dans la terre fertile de notre cœur. Et une fois qu'on peut se laisser vraiment davantage toucher et pénétrer par la parole de Dieu, à ce moment-là, on peut avancer sur la dernière étape, qui est l'étape unitive, qui doit conduire à ce qu'on appelle, ce que le catéchisme appelle l'union mystique, c'est-à-dire une union très intime avec Dieu, qui est possible de vivre. Alors, avant de conclure, je résume. D'abord, je demande à mes frères s'ils ont... Non, je ne vais pas dire.
Il me semble que ce que tu nous apprends, c'est l'équilibre qu'il y a entre notre volonté qui doit s'engager et en même temps l'ouverture à la grâce. Parce que je me rappelle toujours de notre fondateur qui avait été très blessé par le jansénisme et il disait je ne peux pas supporter, on nous disait coupe, arrache, détruit alors ton péché, etc. Et ce qui le faisait souffrir, c'était ce volontarisme qui était une forme d'orgueil. Et lui disait non, moi je préfère aller sur le cœur de Jésus et puis lui donner tout ça pour qu'il le brûle. Et donc, en fait, il en faisait un matériau pour la grâce plutôt que d'intervenir avec la volonté propre uniquement, comme c'était, je pense, le travers du jansénisme. Et ça allait bien à une époque où, je pense, les gens avaient une vie plus dure que la nôtre, étaient formés à la dure, et donc avaient plus de facilité à jouer sur la volonté pour devenir saint. Il me semble que nous, on est dans l'autre ordre. On a globalement vécu dans une vie facile, on n'a pas eu très faim, enfin, on a eu le confort, etc., que nos parents, nos grands-parents n'ont pas connu. Et nous, il me semble qu'on a besoin de cette structuration justement intérieure où la volonté joue davantage, mais sans aller jusqu'aux excès du jansénisme. Et c'est la ligne de crête dont tu parlais. Il faut à la fois contribuer à sa sainteté, mais être sur la vague et pas anticiper sur la vague, mais s'appuyer sur elle pour que l'effort soit partagé, disons, entre la grâce et nous. Voilà.
Il faut épouser librement le mouvement de la grâce et comment dire, mobiliser nos facultés pour coopérer à cette action de la grâce en nous. Mais voyez la petite Thérèse qu'on décrit comme le modèle d'une personne qui a su profiter de ses faiblesses et de ses péchés pour se rapprocher de Dieu. Parce que de fait, on peut profiter de ses fautes pour s'humilier et se rapprocher de Dieu. Mais on ne peut pas profiter de ses attachements secrets aux fautes. Ça nous empêche de nous donner totalement à Dieu. Hein ? Écoutez-la. Je me souviens qu'étant postulante, j'avais parfois de si violentes tentations d'entrer chez vous. Le « vous », c'est Pauline, sa grande sœur, qui a été longtemps pour elle comme une seconde mère, d'entrer chez vous, qui était mère prieure du Carmel, hein, pour me satisfaire, trouver quelques gouttes de joie. Donc j'avais de si violentes tentations que j'étais obligé de passer rapidement devant le dépôt et de me cramponner à la rampe de l'escalier. Voyez là la volonté en acte. Il me venait à l'esprit une foule de permissions à demander. Enfin, ma mère bien-aimée, je trouvais mille raisons pour contenter ma nature. Que je suis heureuse maintenant de m'être privée dès le début de ma vie religieuse, ce que n'a pas su faire Sainte Thérèse d'Avila pendant 18 ans. Elle l'a fait dès le début. Je jouis déjà de la récompense promise à ceux qui combattent courageusement. je ne sens plus qu'il soit nécessaire de me refuser toutes les consolations du cœur. Liberté. Car mon âme est affermie par celui que je voulais aimer uniquement. Force. Je vois avec bonheur qu'en l'aimant, le cœur s'agrandit, qu'il peut se donner incomparablement plus, qu'il peut donner incomparablement plus de tendresse à ceux qui lui sont chers que s'il s'était concentré dans un amour égoïste et infructueux. Eh bien, moi, je dis, il vaut mieux en baver au début, être libre ensuite, qu'en baver toute sa vie. Parce que de toute façon, on en bavera à rester esclave. Je dis aussi que l'arbre, il se redresse plus facilement quand il est jeune. Et donc, remettre à plus tard ce travail de purification et de conversion, c'est insensé. Et je dis aussi qu'il ne faut pas attendre de se sentir libre pour s'engager dans un apostolat, parce que si on réservait la vie apostolique à ceux qui sont parvenus à la maturité chrétienne, risquerait d'être quand même un peu démunis. Hein. Mais tant qu'on ne sent pas cette liberté, tant qu'on ne sent pas qu'on est vraiment purifié dans nos pensées, nos manières d'entrer en relation avec les autres, il faut d'abord travailler sur soi. Ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Encore que, quand j'étais à l'Hôtel-Dieu pendant 10 ans, en même temps que je prenais soin des autres, j'avais l'impression d'être moi-même hospitalisé. Et que le Seigneur s'occupait de mon âme, quoi, me faisait ce travail sur moi-même. Et il m'est revenu à l'esprit, il y a un père de l'Église qui dit que celui qui fait miséricorde, qui s'exerce à la miséricorde, est le médecin de son âme. Parce que Dieu fait miséricorde au miséricordieux. Donc, vivre son apostolat dans l'espérance de se purifier davantage au travers de l'apostolat aussi. En pensant aussi que toute activité, notamment apostolique, est le lieu où on découvre nos fragilités, nos passions mauvaises. Et donc, c'est un lieu où on peut, de fait, avancer et progresser, à condition de prendre au sérieux ce que dit Jésus. Enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil, tu verras clair, pour enlever la paille qui est dans l'œil d'autrui. Dans toute difficulté relationnelle avec les autres, vois d'abord le travail que je peux faire sur moi dans cette difficulté-là. Vous voyez, et notamment dans notre vie d'église. Difficultés qu'on peut avoir entre prêtres, difficultés qu'on peut avoir avec des paroissiens, tout ça, c'est une matière à travailler sur soi. Au lieu de vouloir vaincre l'obstacle et, je dirais, réussir au niveau de son action apostolique, prendre la vie apostolique comme terrain d'abord de conversion pour moi. Ça paraît un peu centré sur soi, mais en réalité, le plus grand service qu'on puisse rendre aux autres, c'est de se convertir soi-même d'abord. Enfin, dernière recommandation, je laisse parler Sainte Thérèse d'Avila. Je conseillerais à ceux qui s'adonnent à l'oraison de rechercher, surtout dans les commencements, l'amitié et le commerce de personnes qui s'y appliquent également. Quand on ne ferait que s'aider mutuellement en priant les uns pour les autres, ce serait déjà un immense avantage. Mais cet avantage n'est pas le seul, il y en a beaucoup d'autres, non moins précieux. Si dans les relations et les commerces profanes de cette vie on cherche des amis, pourquoi, je le demande, ne serait-il pas permis à celui qui aime Dieu et qui veut sincèrement le servir d'avoir des amis, de leur faire part des joies et des peines que l'on trouve toujours dans l'horizon ? Dès qu'il est animé d'une intention droite, il verra une telle ouverture de cœur tournée à son avantage et à celui de ceux qui l'écoutent. Il en sortira avec des lumières plus vives et plus capables d'instruire ses amis. Il est de l'humilité de se défier de soi et de croire que Dieu nous donnera des secours par le moyen de ceux auxquels un saint commerce nous lie. Cette mutuelle communication accroît la charité. Dans la communauté de l'Emmanuel,
ceux qui sont... Mais ceux qui s'en sont sortis, je pense, c'est ceux qui ont persévéré dans la vie fraternelle aussi. Je demande confirmation.
Oui, ça sent les frères.
C'est vrai, je dis au départ, je pense qu'on a besoin des autres. Mais en même temps, il ne faut pas trop s'appuyer non plus sur les autres. C'est ça qui est.
Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Père,